Hey, bonjour tout le monde. Pour ceux qui vont écouter le cours en audio, on est dans le cours Formation de disciples et puis on arrive à la leçon 6. On va parler de la centralité de l'Évangile dans la formation de disciples ce matin. Quelque chose que j'ai particulièrement à cœur. On va essayer de rendre ça le plus concret possible. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière pour commencer notre cours. Bien, Père éternel, merci pour ce dimanche, ce beau dimanche de printemps ensoleillé. Merci pour les baptêmes auxquels on va assister tout à l'heure, Seigneur. Merci pour cette Église qui est vivante. Père, si cette Église est vivante, si nous ne sommes pas tous morts dans nos péchés, comme nous le dit Paul dans la lettre aux Éphésiens, c'est que tu nous as sauvés par la puissance de l'Évangile. Et Seigneur, on te prie de nous éclairer ce matin, d'éclairer les yeux de nos cœurs pour que nous saisissions la beauté de l'Évangile et son importance dans la formation de disciples. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bienvenue tout le monde. Il y avait des copies à l'arrière, des notes si vous le désirez. Si vous n'êtes pas inscrit à la liste d'envoi, vous pouvez vous inscrire à la liste d'envoi. Ce matin, on parle de quelque chose qui peut souvent sonner très, très, très théorique, surtout qu'on le dit souvent dans l'Église ici, à être centré sur l'Évangile. Puis quand tu répètes quelque chose trop souvent, tout ça perd son sens. Excusez-moi, j'ai vu quelqu'un en visite. C'était quelqu'un. OK. J'ai juste fait le saut de le voir là-bas. C'est super. Alors, bonjour, Monsieur Lapierre. Maintenant, tu es sur le web. Oui, parce que je suis enregistré. OK, alors, c'est ça. À l'Église, ici, on parle souvent de la centralité de l'Évangile. Puis, à un moment donné, quand tu répètes quelque chose trop souvent, ça peut devenir très creux, très vide, perdre son sens. Et c'est quelque chose qui peut sembler aussi théorique, a priori, comme concept. D'accord? Puis on va chercher à répondre à cette question-là, en quoi ce n'est pas théorique, en quoi c'est central à la formation de disciples, puis comment on fait pour amener l'Évangile au centre de la formation de disciples, au cœur de la formation de disciples. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle par laquelle Dieu vient nous donner un cœur nouveau et nous transformer progressivement à la ressemblance de Jésus-Christ. On lit dans Ézéchiel 36, 26, 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Cette prophétie d'Ézéchiel est venue s'accomplir avec la venue de Jésus-Christ lorsqu'on entre dans la nouvelle alliance. On est sauvé par la foi, comme dans l'Ancien Testament, on était sauvé par la foi. Mais il y a quelque chose au niveau du salut qui est fondamentalement différent. La venue de Jésus-Christ a rendu possible que nous recevions l'Esprit de Dieu, qu'un cœur nouveau nous soit donné. Dans notre compréhension de l'œuvre de l'Esprit, dans l'Ancien Testament, l'Esprit affectait définitivement les gens qui marchaient avec Dieu. L'homme n'était pas plus bon dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on voit Moïse marcher avec Dieu, lorsqu'on voit des hommes, des femmes de Dieu marcher avec Dieu, ils ne le font pas par leur propre puissance. Ils le font certainement par une œuvre de l'Esprit. Donc, si vous faites une bonne recherche sur l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il est présent. La manière qu'on le comprend, c'est que dans l'Ancien Testament, l'Esprit influençait, affectait le peuple. L'Esprit venait sur des personnes choisies, mais ne les habitait pas d'une manière permanente, comme on le trouve sous la Nouvelle Alliance. D'accord? C'est comme notre meilleure compréhension d'une œuvre assez mystérieuse qui reste au quotidien, même mystérieuse dans notre propre vie, l'œuvre de l'Esprit. Maintenant, grandir dans la foi demande de grandir dans notre appréciation de l'Évangile, de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous, pour avancer de plus en plus dans cette vie nouvelle-là. Le cœur nouveau y est donné. Comment on fait maintenant pour grandir? Je suis un enfant nouveau-né. Comment est-ce que je fais pour grandir? Bien, ce qu'on va développer ce matin, c'est qu'on ne grandit pas en passant à autre chose que l'Évangile. On grandit en demeurant, en explorant, en appliquant, en grandissant dans notre compréhension, notre appréciation de l'Évangile. D'accord? Et notre réflexe, c'est de voir l'Évangile comme la porte d'entrée de la vie chrétienne. Puis la bouée de sauvetage à laquelle tu t'accroches à la fin de la journée lorsque tu réalises que ta journée a été ordinaire, puis tu veux te mettre en règle avec Dieu. Fait que là, tu vas aller à la croix, tu vas faire appel à l'Évangile, à la grâce de Dieu pour te faire pardonner tes péchés. notre réflexe, c'est de voir l'Évangile à peu près à ces deux endroits-là, d'accord? On va le revoir aussi si quelqu'un s'éloigne vraiment de l'Évangile, du Seigneur, s'éloigne de l'Église, puis il revient. On va lui reprêcher l'Évangile parce qu'on veut vraiment qu'il expérimente la grâce, le pardon. Il arrive, puis il est lourd de ses péchés, tout ça, puis on veut qu'il saisisse la repentance. Donc, notre réflexe, bien souvent, c'est de se servir de l'Évangile ou de faire appel à l'Évangile à des moments pointus dans notre vie, dans des moments particuliers, plutôt que de voir l'Évangile comme étant le moteur de chaque moment de notre vie chrétienne. La lumière qui aide la compréhension de la loi de Dieu, le motif pour marcher dans la sainteté. Et c'est ça qu'on va développer ensemble ce matin. Maintenant, juste pour vous mettre sur une piste, pour ceux qui sont familiers avec les Écritures, pensez aux lettres de Paul, l'Évangile est partout dans les lettres de Paul. D'accord? C'est son argument. Dans Éphésiens, dans Galates, dans Romains, c'est son argument. Dans Philippiens, il revient, c'est le motif. Donc, l'Évangile est là partout. C'est le moteur, c'est la source, c'est la motivation, c'est la compréhension, c'est la lumière. D'accord? Constamment, et c'est ça qu'on veut voir ensemble ce matin. La vie chrétienne commence par une compréhension et une révélation du message, de la bonne nouvelle, par laquelle Dieu vient illuminer les yeux de notre cœur. On va voir ce matin dans le message, on va être dans Éphésiens 2, 1 à 10. Et dans Éphésiens 2, 1 à 10, bien, on voit au départ qu'on est tous morts. Avant d'être en Jésus-Christ, avant d'être créés à nouveau en Jésus-Christ, on est morts spirituellement. Et je passe de la mort à la vie par une révélation de l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu révèle, m'aide à saisir ce message-là personnellement pour moi. Puis là, je passe de la mort à la vie. Est-ce que ça s'arrête là? Mais tout le point de Paul dans la lettre aux Éphésiens, lorsque je commence la lettre aux Éphésiens, Éphésiens 1, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous saisissiez la richesse de l'espérance que vous avez en Jésus-Christ. Fait que ce qu'il va faire dans Éphésiens, c'est qu'il commence en louant Dieu. Ensuite de ça, il fait cette prière-là. Il développe l'Évangile, puis après ça, il va dire « Maintenant, considérant cela, lorsque je vais arriver dans 4, 5, 6, considérant cela, voici comment vous devez marcher. » Donc, Paul reprêche l'Évangile à nouveau à ceux qui connaissent déjà l'Évangile lorsqu'il veut les aider à grandir dans leur vie chrétienne. Il repasse par le même chemin dans un sens qu'il leur rappelle « Vous étiez morts. » Mais donc, ils sont vivants s'ils leur rappellent qu'ils étaient morts. Est-ce qu'ils ont encore besoin de l'Évangile? Ils ont encore besoin de l'Évangile. Parce que l'Évangile, ce n'est pas seulement comment je passe de la mort à la vie, c'est comment je vis. Est-ce que, does it make sense? Est-ce que ça se tient jusqu'à présent ou vous dites, pas sûr? Est-ce que ça va? Avez-vous des questions jusque-là? Est-ce que c'est trop... Est-ce que c'est clair? Oui? Ça va? Oui? Merci. Super. Alors, notre croissance dans la foi, à l'image de Christ, n'est pas étrangère à la croix. Ce n'est pas étranger à la croix, la croissance, d'accord? Encore une fois, je pense que tout le monde le sait, dans le sens qu'on se dit, OK, dans ma journée, j'ai fait une journée ordinaire, j'ai péché à tel endroit, comment est-ce que je vais revenir à Dieu? Je vais passer par la croix. Donc, dans un sens, je comprends que l'Évangile n'est pas étranger à ma croissance au quotidien. Mais encore une fois, comme je le dis, c'est une espèce de bouée de sauvetage que je vais chercher. Plus une manière de me remettre sur la traque que d'avancer. D'accord? Fait que c'est plus que ça, puis on va le voir ensemble. Pour avancer, un chrétien doit apprendre à vivre quotidiennement la réalité de sa propre mort et de sa propre résurrection avec Christ. Voici un des nombreux passages où est exposé cet aspect fondamental. Bon, mais Romains 6, comment est-ce qu'un chrétien marche dans la sainteté? C'est en vivant quotidiennement à la lumière de la croix. Pas en se confessant à la fin de la journée. C'est en commençant sa journée à la lumière de l'Évangile. Quand je dis la croix, là, quand je le prends comme englobant l'ensemble de l'Évangile, la mort, la résurrection. Pensez pas juste à la mort. C'est vraiment à la mort, à la résurrection. Donc, comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je commence ma journée pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans une vie nouvelle? Je le fais à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la croix. D'accord? Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. J'ai eu une mauvaise journée hier. J'ai eu une prise de bec avec un collègue de travail. J'ai eu un accrochage avec les enfants. Ça n'a pas bien fini. Je recommence ma journée un petit peu lourd. Lourd de ces échecs-là de la veille où OK, sur le coup, j'ai été comme irrité après les gens à cause de la manière qu'ils ont agi avec moi, peut-être mes enfants, peu importe. Mais après ça, je me suis dit, ouais, mais moi, j'ai été poche de la manière que j'ai réagi. Fait que, OK, là, je l'ai confessé au Seigneur. Je recommence la deuxième journée, le lendemain matin. Comment est-ce que je vais faire pour croire en Dieu, croire que l'Esprit de Dieu va faire une œuvre en moi aujourd'hui, puis que la journée d'aujourd'hui n'a pas besoin d'être identique à celle d'hier? Je m'en vais à la croix. Je m'en vais dans l'Évangile. Je m'en vais dans Romains 6. C'est ça que Paul fait ici dans Romains 6, 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on fait de la formation disciple, lorsqu'on instruit nos enfants dans la foi, lorsqu'on parle ensemble de marcher dans la vie chrétienne, l'Évangile doit être au centre, bien souvent, de nos conversations. Il faut que j'apprenne, quand je veux former un disciple de Christ, il faut que je lui apprenne à les puiser dans les ressources de l'Évangile à tous les jours. Pas quand ça va mal, à tous les jours. Parce que quand ça va aller bien, c'est parce qu'il va avoir puisé dans l'Évangile. Si ça va bien et qu'il n'est pas allé puiser dans l'Évangile, c'est quoi qui se passe? C'est un religieux qui réussit à faire son checkbox. Bonne performance cette semaine, Yannick, jusqu'à ce que je me pète la baboune. Mauvaise performance, je ne suis pas un bon chrétien. Il n'y en a pas de bons chrétiens. Il y a juste des gens graciés. Si à tous les jours je m'en vais à l'Évangile, à la fin de la journée, je ne me pète pas les bretelles en disant « Enfin, je suis un bon chrétien ». Il n'y a pas de bon chrétien, il y a juste des gens graciés en qui l'Esprit œuvre. Regardez bien le paragraphe suivant, il est important. Pourtant, bien des chrétiens réaliseront l'importance de l'Évangile dans leur sanctification quotidienne après, trop souvent, plusieurs années de découragement. Alors, les gens viennent à la connaissance de Jésus-Christ, sont bouleversés par la beauté de l'amour de Dieu à la croix. Ils se sentent aimés de Dieu. Ils disent, « OK, Seigneur, tu m'as aimé, je vais marcher pour toi. Je vais marcher avec toi parce que tu m'as aimé. » Ils s'engagent dans la vie chrétienne. Tout nouveau, tout beau. Il y a la motivation du départ. Tu peux même réussir à faire ça sans devenir chrétien. Parabole des quatre terres, d'accord? Wow, c'est beau l'Évangile. Il n'y a pas eu vraiment de conversion, c'est juste le message est beau, je trouve que c'est génial, j'embarque l'amour de Dieu. Peut-être que je ne suis même pas né de nouveau. Je peux faire un méchant bout avec ça. C'est ça que Jésus nous enseigne dans la parabole des quatre terres. D'accord? Je peux porter des fruits qui, en fin de compte, n'en sont pas vraiment. Alors, c'est vrai aussi pour les chrétiens. Je suis sur mon zèle du départ. Facile de lutter contre le péché. Je suis en amour, c'est la lune de miel. Tu viens de te marier, ta femme a dit, hey, tu mettrais-tu de la pâte à dents là? Puis tu fais, oh mon amour, je ferais n'importe quoi pour toi. N'importe quoi, il n'y a pas de problème. C'est la lune de miel. D'accord? Puis là, pouf, je tombe. Wow, c'est plus difficile. Hein, ça ne marche pas. OK, ça doit être parce que je ne prie pas assez. Je vais aller puiser dans la prière. C'est la prière qui va faire que je vais réussir. OK, non, c'est peut-être pas ça. Je ne suis pas assez discipliné. Je ne confesse pas assez. OK, je vais aller puiser là-dedans. Il va falloir que je confesse. Non, j'ai besoin d'un coach, quelqu'un qui va marcher avec moi puis qui va être un tuteur pour moi. Donc, c'est ça qui va m'aider à réussir. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais j'essaye toutes ces affaires-là, puis je ne change pas. Puis il y a un découragement. Puis à un certain moment donné, après 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, il y a quelqu'un qui t'enseigne qu'il faut que tu aies épuisé à tous les jours. Chaque instant, pas juste quand tu pêches, quand ça va bien. Il faut toujours que tu avances par la grâce de l'Évangile. Là, tu es libéré de tous ces efforts-là, puis en même temps, tu es capable de faire des efforts pour marcher dans la sainteté. Avez-vous des questions sur ça, juste sur cet aspect-là? C'est quelque chose de super important. Oui, Suzy.
Est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est un processus normal dans notre marche de chrétien de mourir totalement à nous-mêmes et de vivre par la grâce?
Donc, ta question, c'est, admettons, passer par une phase de découragement comme ça, est-ce que ça pourrait être normal dans le sens que c'est là que tu apprends à renoncer à toi-même? Bien, dans un sens, oui. OK? Dans un sens, oui. Je pense qu'il y a des choses que Dieu transforme et sanctifie en son temps dans nos vies. Puis il y a des. Tu sais, même si je suis centré sur l'Évangile, ça ne veut pas dire que tout va être facile. Au contraire. Mais je crois que beaucoup de chrétiens expérimentent le découragement parce qu'ils ont été mal enseignés au départ. Fait que je fais une nuance entre les deux. Il y a des domaines dans ma vie où ça va me prendre des années à mourir à moi-même. parce que je ne le vois pas, parce que je suis aveugle, les gens me le disent, je ne le vois pas, je n'entends pas. Même si je suis centré sur l'Évangile, ça ne fait pas de moi un chrétien parfait. Il n'y en a pas. Mais en même temps, il y a des gens qui tombent dans des pièges, on va en donner une liste tout à l'heure, tombent dans des pièges, ça les distrait de l'Évangile parce qu'ils cherchent ailleurs que dans l'Évangile. Puis ils font ça pendant des années. D'accord? Fait que je pense qu'il y a les deux. Ça va? C'est bon. Est-ce qu'il y avait une autre question, un autre commentaire? Ça va. C'est bon? Fait que vous pouvez déjà vous poser la question. Est-ce que l'Évangile a été présent dans votre journée à date aujourd'hui? Je ne dis pas ça pour vous faire sentir coupable. Un, deux. Ah, c'est toi qui m'as coupé. Un technicien qui fait des qui fait des tests. Donc, vous pouvez déjà vous poser la question. Si aujourd'hui l'Évangile était présent dans votre journée, est-ce que déjà c'est là? Hier, est-ce que c'était là dans votre journée? Est-ce que ça a été là au moment où vous êtes senti coupable et vous avez demandé pardon? Est-ce que vous avez eu la joie de l'Évangile pendant la journée? Pas juste la joie, Dieu m'a donné de la santé, Dieu m'a donné du travail, Dieu m'a donné une maison, waouh, j'ai des beaux enfants. C'est tout génial, là. Je dis ça sur un ton un peu ironique, là. Mais c'est tout génial, je peux dire merci à Dieu pour toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là peuvent m'être données, enlevées. La seule chose qui ne peut jamais m'être enlevée, c'est la grâce de l'Évangile. D'accord? La joie qu'il y a dans mon identité en Jésus-Christ, elle ne pourra jamais m'être enlevée. C'est ça qui faisait que les martyrs chrétiens mouraient en chantant. Il n'y avait plus d'enfants là, ils s'en allaient à la croix. Il n'y avait plus de santé, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait plus de demain, puis il y avait juste de la souffrance. Il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas leur enlever. C'est leur identité en Jésus-Christ. D'accord? Donc, est-ce que l'Évangile a été là dans votre journée hier? Est-ce que l'Évangile a été là dans votre semaine? Est-ce que ça a été présent? Si ça ne l'est pas, quand vous allez vouloir vous investir pour faire des disciples, ça ne va pas être nécessairement votre réflexe de les pointer là, de les diriger là. Ça va? Enseigner un disciple en formation avec l'aide de l'Esprit de Dieu, l'importance de l'Évangile et de la croix dans la vie quotidienne est le plus beau cadeau que nous pouvons lui faire. Si j'ai un individu qui ne sait pas prier, si j'ai un individu qui est encore en train de se démêler dans sa Bible, si j'ai un individu qui ne sait pas comment gérer son budget, mais cette personne-là est capable à tous les jours d'aller puiser dans l'Évangile, j'ai fait une bébite autonome. Elle vit dans l'Église, il y a les cours, il y a la Bible, les années sont là devant lui, il va aller puiser au bon endroit pour grandir, d'accord? Alors la chose la plus précieuse que je peux enseigner à un disciple, c'est ça. Parce que c'est par là que tout le reste va se placer. D'accord? On va enseigner plein d'autres choses dans la formation de disciples, on ne se concentre pas sur ça. Mais il faut que ça reste comme une espèce de trame de fond. Il faut que ça reste là en arrière-scène tout le temps, pour que je puisse associer les différentes choses qu'on voit à ça. Nous voulons leur apprendre que le seul message qui compte vraiment, c'est la croix. Nous voulons certainement leur apprendre beaucoup d'autres choses sur la vie, les valeurs, avoir du discernement, un éthique chrétien, mais il n'y aura aucun message aussi important que la croix. La croix dans toute sa richesse, d'accord? C'est pour ça qu'on parle d'apprécier l'Évangile, pas simplement la crucifixion, la résurrection, mon identité. Vous serez attentifs ce matin au message, on est vraiment là-dedans dans Éphésiens 2. La croix est le seul message essentiel à la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu, parce que je trouve dans la croix la sainteté de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, mon identité, la réalité du péché, la sanctification, la marche par l'Esprit, tout est là. D'accord? Tout est dans l'Évangile. Tous ces éléments-là sont dans l'Évangile. Après, ces choses-là vont m'amener à développer ce que les puritains appelaient des « means of grace », des moyens de la grâce, des disciplines spirituelles, la prière, aller faire mes dévotions. Je vais apprendre une éthique de travail chrétien. Je vais apprendre à instruire mes enfants. Je vais apprendre à avoir une relation de couple. D'accord? Il y a plein de choses qui vont venir se greffer à ça par la suite. Si le jeune disciple de Jésus-Christ ne saisit pas cela, on s'en va vers les pièges. Il se tournera vers d'autres ressources que l'Évangile pour chercher à obtenir les changements qu'il désire certainement dans sa vie. Donc, celui qui s'est converti a une conscience nouvelle. Il a une conscience plus aiguisée. Il est conscient de son péché. Il est conscient de ses manquements. S'il n'est pas centré sur l'Évangile, quand il vient à l'Église le dimanche matin, peut-être que ponctuellement l'Évangile lui fait du bien si la prédication est centrée sur l'Évangile. Si elle ne l'est pas, c'est juste des fardeaux, d'accord? Jusqu'à temps qu'il décide qu'il va faire des efforts pour marcher un peu plus comme un bon chrétien. Mais il va aller plus ailleurs parce que sa conscience est aiguisée par l'Esprit de Dieu. Fait qu'il sait qu'il doit marcher dans la sainteté. Ah oui, c'est vrai, je dois prier. Il faut que j'aille prier. C'est vrai, un chrétien, ça prie. D'accord? Et donc, il va être confronté à lui-même. Il y a le miroir de cette conscience-là éclairée par l'Esprit de Dieu. Il voit ses manquements. Il essaie de changer. Il n'arrive pas à changer. Si je ne lui ai pas donné l'Évangile, il va se tourner vers d'autres moyens pour réussir à le faire. Fait qu'il va dire, OK, je sais, ça me prend une église qui est plus stricte. Ça me prend une église où on me dit comment marcher. Je n'ai pas besoin de prendre un paquet de décisions. Je m'en vais là-bas, je fais ça comme ça, parce qu'un chrétien, ça fait ça, ça ne fait pas ça. Le pasteur, il donne des réponses. On sait qu'est-ce qu'on a à faire. Peut-être qu'il va tomber dans le légalisme, d'accord? Il va aller puiser là. Voici comment Tim Lane le dit. Les pièges que lui voit, qu'il identifie dans le livre « Changer vraiment comment », que ce soit le formalisme, le légalisme, l'activisme, le mysticisme, d'accord? C'est une expérience avec Dieu que je n'ai pas vécue. Il y a quelque chose que je n'ai pas vécu avec Dieu qui fait que je n'ai pas cette puissance-là. Il y a d'autres chrétiens qui ont une puissance, puis moi, je n'ai pas cette puissance-là. Il faut que j'aille expérimenter cette puissance-là. Là, j'ai besoin que quelqu'un m'impose les mains pour que je reçoive cette puissance-là, cette deuxième sanctification-là, cette troisième sanctification-là. C'est là qu'est le secret. C'est comme ça que je vais être un bon chrétien. Là, je vais réussir à marcher avec Dieu parce que, ouf, j'ai reçu mon baptême de l'Esprit. Mysticisme, j'ai besoin d'une expérience. Surnaturel, activisme, je suis pas assez engagé. Si je m'engage plus dans mon Église, si je suis plus présent, si je sers davantage, là, ça va marcher, ma vie chrétienne. Comprenez? Toutes ces choses-là, dans un sens, c'est toutes des bonnes choses. Je veux dire, des fois, je lis la parole, puis je vis une expérience avec Dieu dans ce moment-là parce que l'Esprit me convainc d'une manière pas normale. C'est pas tous les jours de même aussi « wow » que ça. Dieu me parle vraiment clairement. Moi, là, il me trouble ce matin, tu sais, ou quelqu'un me parle, je venais à la prière, puis j'ai une conviction sur mon cœur, puis j'ai envie des expériences. Mais ce n'est pas ça qui va faire que je vais réussir ma vie chrétienne, que je vais réussir à grandir, je vais réussir à marcher. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez ça, ces pièges-là? Donc, je cherche une clé. Je cherche la clé qui me manque. C'est quoi le livre que je dois lire? Puis là, il y a un livre qui part dans l'Église. Lisez ce livre-là, tu dis ça. Wow, tu vas voir. Ça va marcher. Conférence, ça me prend une conférence. Ah, les autres, ceux qui marchent avec le Seigneur, ils vont dans des conférences. Je vais aller dans des conférences, tu sais. Non, c'est tel prédicateur. Lui, lorsqu'il prêche, là, wow! Je suis comme ça, là. Je suis pareil, là. Vous comprenez? J'ai mes prédicateurs préférés sur le web que j'écoute. Puis il y en a, ça me touche moins souvent. D'autres, ça me touche plus. Il y a quelque chose d'humain là-dedans. Ils me rejoignent plus dans leur style. Mais si je n'ai pas donné la centralité de l'Évangile à la personne en qui je m'investis, on va chercher des remèdes dans ces solutions-là. Pardon? Oui, c'est une question de centralité. Je veux établir la centralité de l'Évangile. Après, les autres deviennent, ce qu'on, comme je disais, les puritains appelaient des « means of grace », des moyens par lesquels Dieu nous communique sa grâce quotidiennement pour nous transformer. Il le fait à travers tous ces moyens-là que j'ai mentionnés. Mais c'est, oui, c'est des bonnes choses. Ça devient des mauvaises choses lorsque je pense que c'est le remède au fait que je n'arrive pas à marcher. Oui, Paul. Oui.
Mm-hmm. Et voici ce que j'ai besoin, moi, de voir les nuances, par exemple, comment aborder les idoles, les péchés, les frères qui peuvent être libres du découragement. Comment l'aborder sous l'angle de la croix concrètement?
Ouais.
Il y a peut-être là que j'ai besoin de faire atterrir ça un petit peu plus
concrètement. Oui. Ça m'aide. Je vais essayer de l'illustrer un peu là. mais ce serait même pas compliqué pour nous de faire quelques vidéos où je jase avec les gars que je coach, puis on fait en mise en scène, juste lorsqu'on va pas vers la croix, puis normalement, qu'est-ce qu'on fait? Mais cette semaine, je rencontrais Adam, puis on l'a fait. On l'a fait, on est en train de parler de leadership, d'influence. Fait que, OK, c'est bon. En somme, la question de Jean-Paul, je vais juste le répéter pour l'audio. Dans le fond, la question de Jean-Paul, c'est tout à fait d'accord avec le principe, mais comment est-ce qu'on le fait concrètement dans le cadre du coaching, dans une relation? Je vais dire quelque chose qui va avoir de l'air simpliste, mais prenez ça quand même, ça c'est le point de départ, c'est important. Je vais prêcher l'Évangile, on va se prêcher l'Évangile les uns aux autres. D'accord? Ça c'est la trame de fond. Nous, on prêche l'Évangile à quelqu'un qui est mort dans son péché, on veut qu'il vienne à la vie. Celui qui est à la vie a besoin que je lui prêche l'Évangile. À travers ce moment-là où on va discuter ensemble de l'Évangile puis des applications ou des implications de l'Évangile par rapport à tel combat ou à telle lutte, d'accord? Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple pour être concret. Peut-être que ça sera déjà un petit teaser qu'on développera. Je fais le coaching cette semaine, puis conversation sur le leadership. Je parle avec Adam, puis... Adam, de plus en plus, il voit qu'il peut influencer des gens, il peut aider des gens à avancer, tout ça. Il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais? Comment j'interviens? Bon, on est allé dans Philippiens. Dans Philippiens, au début de Philippiens, Paul va puiser dans l'Évangile la conviction que l'œuvre que Dieu accomplit chez les Philippiens, il va la compléter. Ça, c'est l'Évangile qui me donne cette conviction-là, parce que ce que Christ a commencé, il l'a terminé. Dieu a mis son sceau, il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Sa résurrection, c'est ma résurrection. Sa résurrection, c'est ma résurrection à la fin des temps. Son ascension, c'est ma destination. Je vais être comme Jésus-Christ. Dans tout ce que j'ai dit là, je suis dans l'Évangile. D'accord? Donc, je parle avec Adam de ça, leadership. J'ai dit, Adam, tu appartiens à Dieu, tu as Jésus-Christ en toi. Tu sais la destination des frères et sœurs autour de toi. Maintenant, comme leader, tu vas faire ce que Paul fait. Tu vas te donner le droit de croire dans l'œuvre que Dieu va compléter en eux. Puis tu vas te donner le droit de voir ce que Dieu est en train de faire. Puis là, tu vas pouvoir aller voir des gens qui sont en train de marcher, mais pour aller plus loin encore. Puis tu vas aller les voir, puis tu vas leur dire. Tu vas leur dire, je vois ce que Dieu est en train de faire, puis je vois ce que Dieu est en train de continuer comme œuvre en toi. Puis Dieu va compléter cette œuvre-là. Fait que je t'encourage à avancer, à aller de l'avant. C'est Dieu qui donne cette conviction-là, qui va compléter cette œuvre-là. Fait que là, je peux me servir de l'Évangile dans l'encouragement. C'est quand même concret. Je vois des gens qui sont en train de servir. Plutôt que juste leur dire, c'est moi qui l'ai accroché, plutôt que juste leur dire, hey, David, c'est super génial, t'es fidèle, c'est merveilleux. Je peux aller un petit peu plus loin que ça. Dire, David, ce qui me touche, c'est de voir que tu as une passion, tu as un cœur pour être en train de servir. Puis si ce n'était pas de l'Évangile de Jésus-Christ, tu serais couché dans ton lit, mon homme, un matin. Mais Dieu a fait ça dans ta vie, puis il va continuer à t'amener plus loin encore dans ton service. Puis j'ai aidé à ce moment-là, mon frère, à être reconnaissant à Dieu, à avoir une motivation pour continuer. Fait que là, je ne suis pas dans une problématique, je suis dans un encouragement. Mais quand même, on ne penserait pas aller vers l'Évangile pour faire de l'encouragement. On va juste, je vais aller voir quelqu'un et je vais dire, hey, toi, tu as tout un talent là-dedans, puis c'est génial, tu es en train de servir le Seigneur. Ça peut être bon, mais ça peut donner toutes sortes de signaux pas bons aussi. Tu sais. Hey, c'est vrai, j'ai un talent là-dedans, puis je suis vraiment utile pour le Seigneur. Puis ça se peut que je l'envoie sur une mauvaise traque carrément. Il part avec ça, puis wow, il n'est plus centré sur l'Évangile. Il est parti avec son potentiel à lui, puis wow, tu sais. Une chance que Dieu m'a dans son équipe. T'sais. Jusqu'à temps qu'il se pète la baboune dans son service, là, j'ai besoin de le ramener à l'Évangile parce qu'il s'est rendu compte que finalement, c'est peut-être Dieu qui avait fait une faveur, c'était pas lui qui faisait une faveur à Dieu. Ça serait un exemple concret que je peux faire à travers l'encouragement. Mais c'est vrai que ce serait utile de le développer plus dans une conversation plus complète. Là. Mais c'est ça que j'ai fait avec Adam vendredi matin. On est allé à travers ça, puis j'ai dit, tu vas aller puiser, tu vas avoir le droit. Puis là, je suis allé plus loin que ça encore. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, il te donne de voir et le non-croyant, et le non-chrétien, et le chrétien avec les yeux de Dieu. À travers les lunettes de l'Évangile, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je peux voir les gens à travers cette lunette-là. Je peux voir le non-chrétien pour ce qu'il pourrait être s'il venait à Jésus-Christ, parce que je connais l'Évangile. Je ne vois pas juste son style de vie qui est n'importe comment. Je ne vois pas juste tous ses péchés dans sa vie. Je ne vois pas juste toutes les incapacités pour lui-même. Je le sais qu'il est incapable. J'étais de ce nombre-là. Mais j'apprends à le regarder avec ça. Puis là, j'ai de la compassion. J'ai le goût d'aller lui dire, écoute, tu pourrais vivre tellement une meilleure vie si tu venais à Christ. Puis ce que tu n'es pas capable de changer dans ta vie, là, cette prison-là dans laquelle tu es prise, tu pourrais aller ailleurs. Ce zèle-là là, que j'ai dans mon cœur, c'est l'œuvre de Dieu en moi. C'est Dieu qui est en train de parler à travers moi. Fait que je peux aller plus loin encore. Dans l'Évangile, j'ai puisé le fait que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Puis quand moi, je vais parler avec quelqu'un, je vais carrément dire, puis Dieu désire. Parce qu'il l'a mis sur mon cœur, puis l'Esprit de Dieu habite en moi, je peux t'assurer que Dieu désire aujourd'hui que tu te repentes. Quand je vais rencontrer quelqu'un qui me dit « Dieu m'a abandonné », puis mon cœur est ému, si mon cœur est distant, je n'ose pas faire ça, je ne suis pas là pour manipuler, mais si mon cœur est ému par la situation de la personne, puis la personne me dit « Dieu est loin de moi, tu ne peux pas savoir. » Avec larmes, je dis à cette personne-là, « C'est pas vrai que Dieu est loin de toi. » Dieu n'est pas loin de toi parce que moi, je suis là, puis j'ai compassion de toi, puis moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Dieu est là à travers moi parce que j'ai l'Esprit de Dieu. J'ai cette conviction-là à cause de l'Évangile. L'Esprit de Dieu m'a été donné. De cette grâce-là. Là, je parle au nom de Dieu. Pas comme si j'étais un prophète particulier. Fait que je peux m'en servir même là dans ma motivation. Quand mon cœur bat maintenant au même rythme que le cœur de Dieu, bien souvent, par la puissance de l'Esprit qui habite en moi à cause de l'Évangile. Puis je vais m'en servir à ce moment-là. Est-ce que ça, c'est un peu concret? Fait que ça change mon regard sur les gens autour de moi. J'apprends à regarder les gens à travers la lunette de l'Évangile par la puissance de l'Esprit. Puis je suis convaincu que lorsque j'interviens, c'est Dieu qui intervient. Pas parce que je suis Dieu, parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Fait que ça serait des applications concrètes. On va avancer un petit peu. Puis je vais retenir l'idée peut-être de faire... Je pense que des vidéos, ce serait ça le plus efficace. Si la personne dévie, tombe dans des pièges comme le formalisme, le légalisme, toutes ces choses-là, il y a des symptômes qui vont apparaître dans sa vie. Ces symptômes-là pourraient être dus à autre chose. Hein. Les symptômes ne nous disent pas toujours c'est quoi la cause, mais nous pointent vers une cause, puis après ça, on cherche c'est quoi la bonne. Je pense que ça ressemble un petit peu à ça en médecine. Fait que c'est vrai au niveau spirituel. Certains des symptômes, manquer de joie, peu de progrès dans sa maturité spirituelle, un amour pour Dieu qui manque de passion, beaucoup de difficultés à pardonner aux gens qui les blessent et les offensent, toujours à la recherche d'une nouvelle technique, une nouvelle vérité, une nouvelle tendance dans le christianisme, une nouvelle expérience, un nouveau livre pour révolutionner sa vie chrétienne. Quand je comprends la centralité de l'Évangile, je lis des livres. Ce n'est pas ça qui va révolutionner ma vie chrétienne. Ça vient éclairer, ça vient ajouter, c'est tout. On oublie facilement la bonne nouvelle de la croix en nous disant qu'il est temps de passer à autre chose. Et si je peux enseigner à un disciple que tu ne penses jamais à autre chose qu'à la croix, je lui ai donné ce qu'il y a de plus précieux que je peux lui donner. Tu ne penses pas à autre chose que la croix. Tu ajoutes les éléments, mais tu ne passes pas à autre chose. Au bas de la page 3, vivre quotidiennement à la lumière de l'Évangile demande un véritable pas de foi, parce que ça veut dire que j'accepte à tous les jours de regarder ma journée, mes attitudes, mes comportements à la lumière de la croix. Ce que ça veut dire, c'est que ça va mettre en lumière mes manquements, mes faiblesses, les choses que je n'ai pas réussi à réaliser, à accomplir. Mais j'ai besoin de passer par là pour m'abandonner humblement à Dieu, puis après ça, aller puiser la grâce pour marcher dans ses voies dans ma journée. Donc, marcher quotidiennement à la lumière de l'Évangile, c'est accepter à tous les jours que je ne vais pas être monsieur sur la coche, le bon chrétien qui a bonne conscience. À tous les jours, je vais être celui qui est sauvé par grâce, qui est rempli d'une puissance incroyable. Sans Christ, je ne peux rien, mais en Christ, je peux tout. Puis j'accepte de passer à travers ça, quotidiennement. C'est vraiment un pas de foi. Parce que ça me demande de vivre une repentance perpétuelle. J'ai une citation à la page 4 de David Paulison, au quatrième là, petit paragraphe. « La vie chrétienne est un long marathon de repentance, mais nous désirons être déjà à la ligne d'arrivée. » La vie chrétienne est un long marathon de repentance, mais nous désirons être déjà à la ligne d'arrivée. Nous ne voulons pas avoir à changer. Mais la repentance est le terme biblique pour tout changement profond et durable. Dans notre tête à nous, on se repent lorsqu'on pêche. D'accord? La repentance, c'est l'attitude du cœur de celui qui, par lui-même, ne peut rien, mais qui peut tout en Jésus-Christ. Toute ma puissance n'est pas en moi, elle est en Jésus-Christ. Et donc, ce que John Owen appelle la mortification de la chair, « faites mourir les œuvres de la chair », ça devient une posture intérieure où je suis à la fois profondément humilié par ma faiblesse puis profondément fortifié, édifié par la puissance de Christ en moi. Avez-vous des questions sur ça? Est-ce que c'est théorique? Est-ce que ça vous apparaît très théorique comme idée? Est-ce que ça fait du sens? Ça se tient? Donc, il faut que j'accepte de vivre une attitude de repentance quotidienne. À chaque instant, j'ai la conviction, quand j'y pense, quand je regarde, quand je constate, quand je juge, quand je regarde quelqu'un d'autre, quand je dépose un regard sur la société qui va mal, les chrétiens devraient être les gens les plus lucides lorsqu'ils regardent la société puis dire « ça va mal, il n'y a pas d'espoir ». C'est pas être lucide, ça. C'est pas être lucide. C'est juste la moitié. L'avenir de l'humanité est absolument glorieux. Hein? L'avenir de l'humanité est absolument glorieux. On s'en va au ciel puis on va célébrer Dieu dans sa gloire pour l'éternité. Fait que si je fais juste regarder la terre puis dire « tout va mal, puis c'est décourageant », ça veut dire que je ne suis pas centré sur l'Évangile. Je peux regarder le monde puis pleurer comme Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que je veux voir le monde revenir. Mais quand un chrétien devient cynique, puis il est là, puis il juge le monde, mais il n'investit pas son cœur pour intercéder pour le monde, il ne pleure pas sur cette société-là qui est malade, il est détaché affectivement. L'Évangile n'est pas actif dans mon cœur quand je fais ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah, je peux aller à l'autre opposé, puis je suis encore centré sur l'Évangile. Je l'ai déjà dit, là, je vais encore scandaliser une couple de personnes. Moi, je fais des prières imprécatoires. Okay? Il y a des psaumes imprécatoires dans la Bible. Casse-y les dents. Ben oui, moi, ça m'arrive. Lorsque j'apprends qu'il y a un pédophile, un abuseur, un despote dans le monde qui est en train de Boko Haram, n'importe quoi. Oui, je dis, Seigneur, ils sont pécheurs, ils sont déchus, ils sont dangereux, ils sont méchants. Sauve-les dans ta grâce. Si tu ne les sauves pas, Seigneur, détruis-les. Parce qu'il tue des orphelins, il viole des femmes, il brise des vies. Interviens, Seigneur. Je connais ta sainteté, je connais ta grâce, je connais ta colère, Seigneur. Je ne suis pas désengagé. Je ne suis pas indifférent. Je regarde le monde comme Dieu regarde le monde. Dieu regarde le monde à travers la lunette de sa sainteté, de son amour et de sa grâce. Est-ce que ça fait du sens aussi, ça? Fait que j'apprends à faire ça. J'apprends à regarder le monde autour de moi à travers la lunette de l'Évangile. Puis dans l'Évangile, j'ai la sainteté, la colère, l'amour, la grâce, la fidélité de Dieu, sa miséricorde, sa bonté, ses jugements. Ils sont là, ils sont à la croix, ils sont tous sur son Fils. Ils sont là. Définitivement. Fait que Jean-Paul, ce qu'il mentionne, c'est qu'il y a un lien entre la plénitude de l'esprit puis marcher centré sur l'Évangile. Ben, je pense que l'argument que Paul fait, c'est qu'on marche dans la plénitude de l'esprit lorsqu'on est centré sur l'Évangile. C'est comme ça que je le fais. Fait qu'il me commande d'être rempli de l'esprit, mais lorsqu'il me commande d'être rempli de l'esprit, il me commande de ressembler à Christ, d'être humble, d'être un serviteur. Il me ramène encore à l'Évangile pour m'en aller à cet endroit-là. Tantôt, quand je parlais du mysticisme, le mysticisme, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, qu'est-ce qui manque dans ta vie? Il manque la puissance de l'esprit. Tu n'as pas la plénitude de l'esprit, tu as besoin d'une expérience. Viens ici, je vais te donner une expérience, tu vas avoir la plénitude de l'esprit. Bouf! C'est à travers l'Évangile que tu vas avoir la plénitude de l'Esprit. C'est à travers l'Évangile que tu vas mourir à toi-même puis vivre en Jésus-Christ. Ce n'est pas par une expérience mystique que tu vas faire ça. D'accord? Donc oui, je vois les apôtres imposer les mains puis l'Esprit vient après qu'il ait prêché l'Évangile. L'Évangile a été prêché. D'accord? Oui, Suzy.
Jusqu'à la dernière. relation, puis ça, c'est une marche, puis c'est un processus.
Oui.
Fait que, tu sais, oui, il faut garder la centralité, mais on est toujours en chemin, on est toujours, on n'a jamais atteint, puis c'est là où est-ce qu'il ne faut pas se décourager, parce qu'on se sent toujours indigne, on sent, tu sais, la position d'humilité, puis de dire, je suis rien, et je puis tout en Christ, parce que Christ est puissant. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu as les deux sentiments.
Comme, fait que c'est une bonne illustration. Dis-moi si j'ai bien compris ce que tu me dis. C'est que même lorsqu'on parle de la centralité de l'Évangile, tu dis, boy, je ne le vis pas au quotidien. Fait que déjà, c'est écrasant de penser que je ne suis pas assez centré sur l'Évangile. Parfait. C'est écrasant. Continue à te prêcher l'Évangile. Là, sur cette situation-là, c'est écrasant. C'est écrasant de ne pas être centré sur l'Évangile parce que déjà, je ne vais pas à la bonne place. OK, t'es pécheur. T'es déchu, t'es faible. On continue. C'est quoi que nous dit l'Évangile? Mais Dieu t'a aimé quand même. Tu comprends? Dieu t'aime quand même. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a déjà élu. T'es déjà dans les lieux célestes avec Christ. C'est juste qu'on s'arrête à « c'est écrasant ». Et là, si t'arrêtes à « c'est écrasant », ben tu vas devenir légaliste. Tu vas essayer d'être sacoche. Continue. Raconte-toi l'Évangile. Va-t'en jusqu'à la fin. Là, t'as fait tout ton cycle, c'est correct, tu t'en vas. T'as accepté la loi de Christ qui m'appelle à la sainteté. Tu as accepté la loi de Christ qui me dit que je veux chercher la plénitude de l'esprit. Mais tu as réussi à l'accepter parce que tu n'es pas arrêté à « Oh, mais c'est écrasant parce que je n'y arrive pas à le faire. » Je me suis raconté l'Évangile. Je me suis prêché l'Évangile au complet. Je termine ce cycle-là, je suis parti. C'est bon. C'est vrai. C'est vrai que c'est difficile. Mais c'est vrai que je suis déjà en lui. C'est vrai que je suis déjà gracié. C'est vrai que je suis déjà dans les lieux célestes. C'est vrai que son esprit vient de me montrer mes manquements par rapport à ça. Mais il me les montre pour que je me repente et que je marche avec lui. Et je ne reste pas écrasé. Je ne reste pas écrasé. Là. C'est bon? Absolument. Absolument. Alors, c'est le renouvellement de l'intelligence. On met la vérité là où il y a du mensonge. Le seul élément qu'on manque facilement, c'est que si on ne voit pas que Paul le fait toujours à travers l'Évangile, la vérité qu'on va aller chercher, c'est la loi. J'ai un mensonge dans ma vie, l'argent est trop important pour moi, mammon est trop présent dans ma vie. C'est quoi que Dieu dit? Tu ne peux pas servir Dieu et mammon. Je m'en vais chercher la loi. Il faut que j'aille chercher l'Évangile. La loi ne suffira pas. Il faut que j'aille chercher l'Évangile dans ce renouvellement-là de l'intelligence. Fait que si je n'enseigne pas ça, ils vont lire l'Ancien Testament puis ils ne comprendront pas les bonnes leçons. Si je n'enseigne pas ça, ils vont lire les directives puis ils vont les fuir. Ou ils vont essayer de les vivre par eux-mêmes. Tu sais. Fait que c'est le renouvellement de l'intelligence à travers toute la parole de Dieu en comprenant que toutes les Écritures me racontent une histoire de rédemption et que la réalité de la rédemption, du salut, du rachat, s'est fait en Jésus-Christ. D'accord? Toutes les Écritures, toutes les pages de la Bible racontent une histoire de rédemption. Un monde déchu, brisé, une humanité brisée, une nature brisée qui va être rachetée. Toutes les Écritures me racontent cette histoire-là. Quand Jésus apparaît dans le Nouveau Testament, pouf, toutes les choses prennent leur sens. Je relis chacune des pages de la Bible à la lumière de l'œuvre de Christ. Je dois toujours faire ça. C'est ce qu'on fait dans Malachie. D'accord? C'est ce qu'on fait dans Malachie. C'est pas si difficile de comprendre la relation entre Malachie puis l'Évangile une fois que j'ai bien saisi cet élément-là. Des fois, ça va arriver qu'il y a des prédicateurs qui ne le comprendront pas bien, puis tu as l'impression comme qu'ils essaient de plaquer Christ sur le texte. T'sais. Ils essaient comme de trouver des places où Jésus apparaît. Mais non, Jésus, il est partout dans l'échec du peuple de Dieu à marcher avec Dieu. Jésus est là partout, c'est lui le remède pour le faire. On termine Malachie, puis c'est ça, c'est un échec, cette patente-là. Parce que le succès est en Christ. Le Fils parfait va venir, lui, il va obéir, il ne sera pas comme Israël, lui, il va nous rendre capables, il va nous donner son esprit. Boum, là, je peux revenir lire Malachie avec ça. Ça va? Oui? Il y a un petit peu de point d'interrogation dans vos yeux. Il nous reste deux petites minutes. Donc, ça, c'est l'objectif. D'une manière plus pratique, comment est-ce qu'on apprend à un disciple en formation que la croix n'est pas seulement l'entrée de la vie chrétienne, mais toute la marche chrétienne? Bien, il faut lui enseigner, il faut l'inviter, il faut le faire nous-mêmes en plaçant l'Évangile au centre de notre adoration quotidienne. Je vais rendre grâce à Dieu pour la nourriture qui est sur ma table, mais je vais rendre grâce à Dieu pour l'Évangile. D'accord? Je vais rendre grâce à Dieu pour mes enfants, mais je vais rendre grâce à Dieu pour l'Évangile. L'Évangile doit être au centre de mon adoration, doit être présent dans mon adoration tous les jours. Je vais travailler sur ma propre passion pour la croix. Je veux constamment revenir là puis confesser au Seigneur. Seigneur, je ne suis plus touché par cet amour-là. Je ne suis plus touché par cette grâce-là. J'ai besoin de retourner là. C'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur une fois par mois. D'accord? Parce qu'on veut retourner à la croix à tous les mois, en église, ensemble. Lire chaque année un nouveau livre sur l'Évangile. Fait que je peux décider de lire un livre pratique, comme ceux que CCF, Paulison, tous ces gars-là vont faire. Mais je peux décider d'aller lire tout simplement un livre vraiment qui plonge dans la doctrine, tout ce qu'il y a autour de l'Évangile, juste dans, mettons, l'anthropologie. Qui est l'homme créé à l'image de Dieu, déchu, recréé en Jésus-Christ? Je pourrais décider cette année, moi je lis là-dessus. Ça me permet d'aller plus loin dans l'Évangile, dans un aspect de l'Évangile, d'accord? Donc à chaque année, je vais juste me stimuler dans ma compréhension, des fois plus pratique, des fois plus doctrinale de l'Évangile, des fois très, très concrète dans comment on le fait dans la famille, comment on le vit ensemble. Tenir un journal où je réfléchis et je médite sur ce que l'Évangile est venu transformer en moi. Je vais tenir un journal pour apprendre, parce qu'on est oublieux, d'accord? Donc, aujourd'hui, où était l'Évangile? Faites-le cette semaine. Décidez qu'à tous les jours, vous allez prendre 5 minutes pour réfléchir. Qu'est-ce que vous pourriez lire dans votre journée? Sur quel moment de la journée vous pourriez déposer un autre regard si vous le faites à travers l'Évangile? Un échec, un succès, une réussite, un défi dans la journée, si vous le regardez à travers la grâce de Christ, à travers l'Évangile, qu'est-ce que ça peut changer? Puis, tu prends des notes. Tu es en train d'apprendre à renouveler ton intelligence. C'est ça que tu es en train d'apprendre à faire. Chercher dans notre cœur comment l'Esprit veut nous amener à grandir en appliquant l'Évangile dans notre vie. Donc, je le dis souvent dans l'Église, je crois profondément qu'on est appelé à collaborer, à obéir, à se soumettre à l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous. Il y a des domaines où vous savez que Dieu travaille. Dieu pointe des choses. Dieu vous reprend à travers des frères et sœurs, à travers la lecture des Écritures, à travers votre conscience qui est éclairée par la parole de Dieu puis l'Esprit de Dieu, à travers des messages. Quand vous avez ça, prenez ça puis dites, « OK, Seigneur, maintenant montre-moi comment l'Évangile peut m'aider à grandir dans ce domaine-là. » Prenez-le. Prenez des notes. Identifiez ça. En quoi je n'applique pas l'Évangile là-dedans? Je suis découragé. C'est dans l'Évangile que je vais aller puiser le courage. D'accord? J'ai de la difficulté à renoncer. C'est dans l'Évangile que je vais trouver le motif, la justification pour dire non, je suis mort à ce péché-là. D'accord? Donc, je peux prendre ça. Le Saint-Esprit vous montre des choses. Vous le prenez puis vous faites un study case, une étude de cas personnelle sur ça. D'accord? Puis, au fur et à mesure que vous allez apprendre à le faire, vous allez être en mesure de le communiquer davantage. Lire des livres comme, je vous dirais, un beau point de départ, super accessible, c'est une vie centrée sur la croix. C'est une plaquette, c'est simple, c'est super bien. Un petit peu plus de matière, changer vraiment comment. Mais après ça, il y a plein d'autres ouvrages qu'on peut vous conseiller. Évidemment, si vous voulez faire de la formation de disciples, assurez-vous qu'il est né de nouveau, qu'il a déjà compris au moins la porte d'entrée, c'est déjà un point de départ. Puis travaillez toujours plus sur le cœur que sur les comportements. Toujours plus sur le cœur que sur les comportements. Les comportements sont des symptômes pour aller au cœur. C'est toujours ça qu'on veut faire, d'accord? Fait que oui, les attitudes, les paroles, les agissements, c'est des symptômes qui nous permettent d'aller au cœur tout le temps puis aller voir où est-ce que l'Évangile est en train d'œuvrer dans ce cœur-là. Apprendre à vivre les étapes de la conviction, de la repentance, de la grâce, de la foi, une à la fois. John Owen disait, quand tu vas confesser un péché à Dieu, ne te déclare pas pardonné avant que le Saint-Esprit te l'ait dit. C'est super subjectif comme concept, d'accord? Mais on fait des repentances take-out, là. On passe au service au volant, puis je demande pardon au Seigneur. Puis après ça, on ne comprend pas pourquoi 5 minutes après, il n'y a rien qui est changé. Mais c'est parce qu'il ne fallait pas faire un take-out. Il fallait prendre une communion avec Dieu dans ce moment-là, puis vraiment passer progressivement à travers l'Évangile dans la prière. C'est bon? Et on va essayer de voir si on peut faire quelque chose pour donner des exemples plus concrets, plus pratiques. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur, notre Dieu, on veut t'adorer, on veut te rendre grâce pour l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Seigneur. On veut t'en rendre grâce tous les jours de nos vies. Pas simplement parce que tu nous as sauvés, tu nous assures une place au ciel, mais parce que tu changes, tu transformes notre manière de voir tous les défis du quotidien. Tu transformes notre manière de regarder les gens autour de nous. Tu donnes un motif, une motivation, Seigneur, à nos cœurs. Tu nous relèves du découragement à travers l'Évangile, Seigneur. Tu nous instruis dans la sainteté pour devenir comme Christ à travers l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous grandir pour qu'on puisse partager cela maintenant. Qu'on apprenne à le vivre nous-mêmes au quotidien, puis à le partager. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Peut-être une dernière parole d'encouragement, d'accord? L'erreur qu'on fait souvent, c'est de dire « je vais pouvoir enseigner ça quand je vais le maîtriser ». On apprend à maîtriser ces choses-là en l'enseignant. Ça fait partie du processus, d'accord? On n'a pas des enfants quand on est rendu des bons parents, d'accord? On apprend à être parent en ayant des enfants. C'est ça la réalité. Fait qu'attendez pas de maîtriser ça avant de commencer à le partager. En le partageant, vous-même, vous allez grandir. C'est bon? Merci.